Commençons par la prière. Seigneur, tu nous as déjà beaucoup parlé ce matin, comme d'habitude. Dans ton Église, dans ce rassemblement, tu as voulu que nous évoquions des sujets, partager nos états d'esprit, nos sentiments, nos pensées. Et en sachant que rien ne se fait sans que tu sois au courant. Tu maîtrises le monde, y compris le diable, avec, car tu es souverain. C'est pourquoi je tiens à te remercier déjà pour tout ce partage que nous avons eu avec mes frères et sœurs. Et je remets entre tes mains aussi ce message. Que tu puisses parler à chacun de nous et surtout, que nous ne gardions que ce qui vient de toi. Que tu puisses balayer, nettoyer tout ce qui vient de l'homme, parce que dans tout ce que nous disons, ce que je dis, il y a beaucoup de subjectivité. Je te prie d'écouter toutes choses et que par ton esprit, nous soyons tous éclairés, à commencer par moi-même. En ton saint nom. Amen. Alors nous allons continuer comme nous avons opté ensemble, c'est-à-dire nous voyageons à travers l'évangile selon Marc, qu'on nomme aussi l'évangile du parfait serviteur, si vous voulez, parce qu'il nous présente le Seigneur comme serviteur. Mais je tiens d'abord, tout simplement d'abord, à vous remercier parce que vous me donnez l'occasion de me présenter devant vous à travers un message. Pourquoi je dis cela? Grâce à vous, je me discipline. Parce que j'ai la responsabilité de venir avec une parole, avec un message, eh bien, je suis obligé de passer du temps avec le Seigneur. Sans vous rendre compte, le Seigneur vous utilise pour que je sois discipliné, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas discipliné. Eh bien, le fait que je passe, que vous m'autorisez à ce que je ramène ce message, eh bien, c'est une façon que le Seigneur œuvre pour mon éducation, pour ma discipline, parce que j'en ai besoin. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier pour cela. Et maintenant, revenons à notre évangile selon Marc. Un évangile court, comme on le sait, mais un évangile qui parle à tout le monde, parce qu'il ne s'adresse pas aux religieux, il ne s'adresse pas aux intellectuels, il s'adresse au commun des mortels, à tout le monde. C'est un langage assez simple et il va au plus important. Et nous sommes arrivés on est toujours dans le chapitre 1. Eh bien oui, donc chapitre 1. Et cette fois-ci, on va évoquer le verset 29 à 34 que je vais lire devant vous, comme ça vous avez le verset devant vous. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Le Seigneur est avec eux. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, la fin de la journée maintenant, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Avant de commencer le message, enfin, presque il faut le faire à chaque fois quand on évoque l'évangile de Marc, tout ce que nous allons pouvoir dire dans l'évangile est ancré sur le premier verset. C'est-à-dire quand l'évangile de Marc commence, c'est pour ça que je mets le titre au-dessus, l'évangile de Marc commence par « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Marc est en train de nous dire la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a donné le titre de son évangile, il a dit après, maintenant je vais vous expliquer à travers sa vie. Ça veut dire tout ce que je vais partager avec vous est en lien avec la confession Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est la même confession que Pierre a faite à Jésus, quand il lui a dit « Qui dis-tu que je suis ?» Il lui a dit, tu es le Christ, fils de Dieu. Et sur cette déclaration, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas bâti l'église sur Pierre en tant qu'homme, mais il a bâti l'Église sur la déclaration de Pierre. Pierre a dit, tu es le Christ, fils de Dieu. Donc l'Église, et nous faisons partie de cette Église, nous sommes rassemblés parce que nous croyons à la bonne nouvelle qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ et le Fils de Dieu. Et c'est cela l'évangile de Marc. Et à chaque fois qu'on développe un verset, il est en lien avec ce premier verset de l'évangile qui justifie, qui explique ce que ça veut dire, la bonne nouvelle qui est le Christ Jésus, le Fils de Dieu. C'est pourquoi je me méfie toujours de cette étude chronologique. On est fait comme ça, notre logique elle est faite comme ça. Je prends verset 1, 2, 3 et je vous explique, 4, 5, je... Non, tout a un sens et il n'a ça. On n'a qu'un sens si on ne le lit pas au premier verset, le Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle, c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En sortant de la synagogue, vous êtes comme moi, vous croyez que la parole de Dieu, une lettre, une virgule, tout a un sens. C'est la parole de Dieu, c'est la parole vivante. Donc tout ce qui vient de Dieu a un sens. Même une lettre en majuscule, même une virgule, même tout a un sens. Et là on dit, en sortant de la synagogue, en sortant de l'assemblée, il va chez Pierre dans sa famille. Notre passage, ce que je viens de vous lire, concerne, si je dois le résumer, concerne un miracle accompli par le Seigneur dans la maison de Simon et d'André, les frères. La guérison de la belle-mère. C'est le deuxième miracle, ce n'est pas le premier. C'est le deuxième miracle accompli par le Seigneur. Mais c'est très intéressant de connaître, de savoir quel est le premier miracle accompli par le Seigneur d'après l'évangile de Marc. Et on le trouve juste avant. C'est très bien de le savoir parce que ça a une importance pour l'Église. Ce miracle s'est déroulé dans la synagogue, pas à l'extérieur. Hein. Pas à l'extérieur de la synagogue, pas dans le monde. Dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la synagogue? Ce que peut-être les Juifs trouvent impensable. Dans les synagogues, il y avait une personne possédée. Si je transpose ça à notre église, et bien dans l'église, il peut y avoir des personnes possédées. Dire que je viens à l'église et que je suis protégé, le Seigneur lui dit, le premier miracle qu'il a accompli, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, etc. Et le Seigneur s'adresse à lui et dit, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Mes frères et sœurs, si vous croyez être protégés en venant à l'église dans un bâtiment, c'est faux. On peut être à l'église tout en n'étant pas de l'église. C'est le message que le Seigneur est en train de nous dire dès le premier miracle. C'est-à-dire qu'au sein même de l'église, à commencer par l'église, Dieu accomplit d'abord la libération. Donc le fait de recevoir le Seigneur dire « ça y est, je suis sauvé », je crois qu'il y a un prix à payer. Le premier miracle que le Seigneur a accompli sur l'évangile est un message pour nous. Et là où est le Seigneur, ça déclenche les hostilités. Si vous remarquez bien que vous lisez l'histoire de Jésus, à chaque fois que Jésus est là, l'hostilité de qui? Des esprits impurs. La présence du Seigneur déclenche les hostilités. Sa présence dérange les esprits impurs qui savent qui il est. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement. Par sa présence dans l'Église, c'est-à-dire en chacun de vous et moi, mes frères et sœurs, par l'Esprit Saint, les esprits impurs tremblent, je dirais, doivent trembler. Les esprits impurs, en ce moment même, doivent être dérangés. En ce moment même, sont en train de courir dans tous les sens. En ce moment même, sont en train de s'écrier. Qu'est-ce qu'on a fait? Laisse-nous tranquilles. Nous savons que tu es le Seigneur. À condition, mes frères et sœurs, d'avoir réellement le Christ en soi. Si nous venons seulement par habitude religieuse, c'est que je viens, je laisse le Seigneur là-bas, ils sont en train de rigoler. Par contre, si on vient avec le Seigneur en nous, dans la communion, là, ils sont en train de trembler. attention à ne pas jouer au héros. Après une trentaine d'années de vie chrétienne, j'en ai vu des héros. On joue avec les mots, avec les versets de la Bible, on va chasser les démons. Et quand on le voit leur vie, c'est tout le contraire de la vie chrétienne. Quel danger. Vivre dans l'illusion et dans les apparences. Et je l'ai vécu, l'illusion et l'apparence en tant que chrétien, mes frères et sœurs. Ce n'était que déchéance. C'est la présence du Seigneur qui non seulement fait fuir les esprits impurs, mais les chasse et leur rappelle qu'ils sont vaincus. De notre souci permanent d'être avec Christ. J'aime pas cet être avec Christ. Ça me dérange d'être avec Christ. Parce que nous sommes appelés à plus que ça. Être en Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Pas avec Christ, c'est en Christ. C'est une communion. Et sans cette position acquise par la foi et alimentée par notre vie, et là ça dérange, par notre vie de prière et de méditation, on ne peut pas maintenir cette position. Là où est le Seigneur, il y a une libération qui s'opère, comme c'est fait dans la synagogue. Une remise en mouvement qui s'amorce. C'est pourquoi nous avons besoin d'être quotidiennement en contact avec le Seigneur. Ce que je dis, ça s'adresse à moi le premier avant de m'adresser à vous. Parce que nous sommes une communauté, une petite communauté, et c'est un privilège d'être une petite communauté parce qu'on partage tout, comme vous le voyez. Et on doit s'alerter aussi. Nous avons besoin d'être quotidiennement en contact avec le Seigneur. Nous devons nous le rappeler les uns les autres. Mon frère, ma sœur, es-tu en contact avec le Seigneur hier? Et ce matin, tu étais en contact avec lui, tu lui as parlé? Est-ce que nous avons parlé au Seigneur comme des fous? Parler dans le vide, on a l'impression qu'on parle dans le vide. Eh bien, je suis fou. Je vais être fou. Est-ce qu'avant de venir à l'église, quand on s'est levé, on a parlé comme des fous, Seigneur? Je dirais même que le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de communion avec nous. Il est bien question d'union et de communion, et non pas d'une simple relation. Et avec Aménie, on sait ce que ça veut dire une relation. On sait que ça veut dire une relation qui veut dire du mot religion. On était dans la foi musulmane. On sait les efforts qu'il faut faire pour s'approcher. Alors que la bonne nouvelle, c'est qu'il dit non, ne me cherchez pas. C'est moi qui viens vers vous. Et en plus, non seulement je ne serai pas avec vous, en vous, par l'Esprit Saint. Les prophètes et le peuple hébreu, on a rêvé avant dans l'Ancien Testament. Ils ont rêvé de cela. Et c'est nous qui avons ce privilège-là. Est-ce qu'on en profite? Notre vie chrétienne a besoin de respirer. Notre vie chrétienne a besoin d'oxygène. Quel oxygène? L'oxygène céleste. Notre respiration qui nous maintient en vie dans une communion avec le Seigneur a un nom. Ou je dirais a des noms. Je vais vous donner les noms de cette respiration. Les noms, c'est prière, méditation. Est-ce que nous respirons? Je me suis mis à faire un petit calcul statistique. Si nous consacrons seulement 10% de notre bavardage de la journée avec nos collègues, avec sa famille, à bavarder avec le Seigneur, c'est énorme. Ça, c'est la prière. Si nous consacrons seulement 10%, mais moins, à nos connexions sur les ordinateurs, les smartphones et la télé, ce sera la méditation avec le Seigneur, ce serait énorme. Oui, ce n'est pas beaucoup. Je dirais même 5%. Et pourtant, la chair, elle trouve que c'est beaucoup, parce qu'elle a ses priorités. Sans vie de prière et sans méditation biblique, il n'y a pas de connexion avec le ciel. Et c'est se mentir de croire le contraire. Et tant qu'on est dans ce corps, tant qu'on est en vie, on doit se le rappeler entre nous, mes frères et sœurs. Et rappelez-le moi, c'est votre devoir de me le rappeler. Est-ce qu'Abdel t'a prié aujourd'hui? Est-ce que tu as au moins écouté la parole de Dieu ou lu, ou je ne sais pas quoi? Vous avez le devoir et l'obligation de me le demander. Et inversement, j'ai le droit de vous le demander. Sans vie de prière et sans méditation biblique, il n'y a pas de connexion avec le ciel. C'est-à-dire, pas de connexion avec notre Seigneur Jésus, qui est le seul apte à nous faire entrer dans la présence spirituelle du Père Céleste. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Est-ce que l'on connaît le Seigneur? Vous allez me dire, oui, mais je vais plus loin. Ben, si on le connaît, est-ce que vous parlez avec lui? Est-ce que vous le cherchez dans la parole de Dieu? Quand je dis vous, je m'adresse à moi, hein, vous avez compris. Hein. Si on lit le Nouveau Testament, souvent il est écrit, quand le Seigneur en fait s'isole dans le désert, les disciples sont en train de le chercher. On l'a dit la dernière fois. Ils se mettent tous à le chercher parce qu'ils ne veulent même pas le perdre un instant. Ils veulent être avec lui 24 heures sur 24. Même quand il dort, ils veulent être à côté de lui. Mais est-ce qu'on fait pareil, nous? Est-ce que 24 heures sur 24, on est en train de le chercher? Il n'est pas là physiquement. Mais il est encore plus qu'avant. Il est là spirituellement, il est en nous. Est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on lui dit s'il va bien? Je ne suis pas en train de lui dire n'importe quoi. Comment vas-tu, Seigneur? J'ai envie de te parler. Voilà, je te raconte ma journée. Oh, j'ai commis des erreurs comme ça, je suis faible, mais je te le confesse devant toi. Oh Seigneur, ton sang est précieux. Oh, pardonne-moi. Est-ce qu'on lui parle? Notre vie chrétienne a besoin de respirer. Notre vie chrétienne a besoin de cet oxygène. Nous avons une responsabilité personnelle et collective pour maintenir et fructifier notre communion avec notre Seigneur et Sauveur. Avec une vie de prière individuelle, et je vais vous dire un scoop, notre nature ne veut pas prier. Je vous le confirme, je la connais la mienne. Elle ne veut pas prier. Et quand elle prie, elle dit, mais allez, 2 minutes, ça suffit. Ou des fois, elle trouve des justificatifs. Elle cherche à se justifier. Oh, tout le temps, je le ferai après. Ça, c'est la nature humaine. Mais vous savez, la nature humaine, le Seigneur la connaît tellement qu'il l'a crucifiée à la croix. Nous avons besoin d'une vie de prière individuelle et collective sincère et qui exprime un besoin intérieur de chercher le Seigneur et chercher à le saisir. Est-ce que nous courons ensemble pour saisir le Seigneur? Est-ce qu'on veut l'attraper? On veut l'attraper. Nous devons avoir le désir de l'attraper. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit lui-même. Parce qu'il avait ce souci permanent. Voilà ce qu'il a écrit l'apôtre Paul. Et si l'apôtre Paul le dit, qui suis-je? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Vous regardez compte, il est déjà, vous connaissez l'apôtre Paul, et il dit ça. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Est-ce que nous courons pour saisir le Seigneur? Est-ce que je me lève le matin, j'ai hâte, j'ai besoin, la seule première de dire, bonjour Seigneur, j'ai envie de te parler. Oh, je suis un fou, je sais que je ne t'entends pas, mais je te parle. Puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Alors, attendez, l'apôtre Paul, que le Seigneur a utilisé pour son ministère, pour propager la bonne nouvelle, et qui écrit, je ne pense pas l'avoir saisi. Et nous, on dit, oh, ça y est, je suis déjà arrivé au but. Hein. Ça y est, moi, je suis au-dessus là. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes des pauvres pécheurs. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant pour ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vie chrétienne est une course, mes frères et sœurs. Jour après jour, je dois avoir du carburant pour courir. Le carburant, je l'ai où? Du Seigneur. Et si je ne me communique pas avec lui, je n'ai pas de carburant. Je reprends notre passage de Marc 1, 29, 34, qui nous donne des informations très précieuses. Ce passage-là nous donne des informations très précieuses sur la vie normale d'une église, ou de l'église de manière générale, qui n'est rien d'autre que le Seigneur lui-même. L'église, c'est Christ. On est d'accord? Ce n'est pas l'église de Christ. Non, c'est l'église Christ. Rappelons-nous l'échange que Jésus a eu avec avec Saul, avant qu'il s'appelle l'apôtre Paul, avant qu'il s'appelle Paul, sur la route de Damas, quand il y a une lumière qui est arrivée, il est devenu aveugle. Et après, il dit, qui es-tu, Seigneur? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il ne lui a pas dit, je suis le Seigneur de l'Église. Il lui a dit quoi? Je suis celui que tu persécutes. Christ s'identifie à l'Église. Donc l'Église, c'est Christ. Juste le fait de savoir que nous sommes Christ, on doit trembler. Parce que c'est une responsabilité. En fait, nous ne sommes pas avec Christ, nous sommes en Christ. Et l'Église, c'est Christ. Donc on a une sacrée responsabilité. Pas pour nous changer par nous-mêmes, mais au moins avoir cette crainte vis-à-vis de Dieu, parce que c'est un Dieu saint. Qui dit Église, dit chacun de nous qui marchons avec le Seigneur. Et d'ailleurs, des fois, quand je me pose des questions sur comment doit se comporter l'Église, mais je dis, à s'arracher les cheveux. Mais c'est tout simple. Il suffit de prendre la Bible, regarder la marche durant 3 ans et demi du Seigneur Jésus. C'est la vie de l'Église. On l'a déjà rappelé ici. Je ne sais pas si je dois me faire baptiser. Je vais lire l'Église, je vais lire la Bible, je dis, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il s'est fait baptiser. Alors tais-toi, va te faire baptiser. Je ne sais pas. En fait, des fois, enfin, on est bien compliqué. Venez à moi comme des petits-enfants. Oui, simple. En sortant de la synagogue, Jésus est accueilli dans la maison de Simon et d'André où Jésus guérit la belle-mère de Simon. Déjà, on a déjà pour un historien, moi, ça me donne une information sur la vie sociale, comment vivent les gens. Donc, on voit bien que dans la même maison, c'est vraiment une grande maison, il y a toute la famille. Il y a Simon, il y a son frère, il y a leurs épouses, il y a leurs enfants, il y a les grands-parents, la belle-mère, les beaux-parents. Tout le monde vit dans le même toit. C'est une autre culture. Ça ne veut pas dire qu'il est bon ou mauvaise. Elle est différente, mais c'est l'histoire. Ils vivent tous sous le même toit. Mais ce qui est important pour moi, c'est en sortant de la synagogue, ils se rendirent chez Simon et André, son frère. Et ça m'a interpellé hier quand j'étais en train de préparer le message. Et d'un seul coup, une question qui m'est venue, une remarque. Rappelons-nous, ce qui se passe là, c'est la vie de l'Église. C'est ça la Bible qu'il faut la lire. C'est le cheminement de l'Église et chacun de nous. Là, une remarque. La vie chrétienne ne se vit pas seulement durant 2 heures le dimanche matin comme à la synagogue là. La vie chrétienne ne se vit pas, peut-être même 4 heures, si j'ajoute les heures d'études bibliques et prières de la semaine. La vie chrétienne continue jusqu'à chez soi. Parce que le Seigneur n'est pas seulement à la synagogue, il est à la maison aussi. La vie chrétienne se vit à la maison et dans la société en général. C'est-à-dire tous les jours. Ce n'est pas seulement le dimanche matin ou le mercredi soir. On n'est même pas à l'abri quand nous sommes à l'église le matin, à la preuve. Il a libéré, chassé un démon dans un juif qui était à la synagogue. Il semble qu'à cette époque, le Seigneur Jésus logeait chez Simon, comme on le voit. Et c'est un immense privilège pour Pierre et sa famille. Est-ce que nous logeons le signe du Seigneur chez nous? Est-ce qu'en sortant de l'église, en rentrant chez nous, on a le Seigneur avec nous jusqu'à la maison? Ou est-ce qu'on le laisse à l'église, ici, et je continue ma vie par la suite? Dès que je sors ici, hop, je prends mes préoccupations dans le monde, et jusqu'au mercredi soir et dimanche matin, je viens rejoindre le Seigneur ici. Non, le Seigneur les a accompagnés jusqu'à chez eux. Certes, Simon et André et leur famille ont ouvert les portes de leur maison au Seigneur. Mais en ouvrant cette porte, ils témoignent et expriment un autre accueil, celui de leur cœur. Quand nous invitons quelqu'un, c'est que déjà on a ouvert notre cœur à ces personnes que nous invitons. Et parce qu'on a déjà ouvert notre cœur aux personnes que nous invitons, que nous ouvrons la porte de notre maison. On n'accueille pas quelqu'un chez soi s'il n'y a pas cet accueil par le cœur d'abord. C'est ce qui s'est passé chez Simon et André. C'est parce qu'on aime, accueillir et qu'on a confiance en la personne qu'on veut recevoir qu'on accueille. Il est question d'attitude du cœur qui s'exprime d'abord avant d'ouvrir la porte de sa maison. La maison de Simon est notre propre maison. La maison de Simon, c'est la maison de chacun de nous. L'attitude de leur cœur est aussi l'attitude de notre cœur. La question que nous devons nous poser est la suivante. Accueillons-nous le Seigneur d'abord dans notre cœur et par conséquent, ça peut arriver à ouvrir la porte de sa maison. En résumé, ça pose une autre question qui résume mes propos. Quelle place a le Seigneur dans mon cœur et dans mon foyer? En accueillant le Seigneur dans leur maison, Simon et André ont vu s'accomplir un miracle devant leurs yeux. Jésus guérit la belle-mère de Simon. Si nous étions présents dans la maison de Simon et d'André, et moi le premier, je serais certainement émerveillé, ébahi, stupéfait. Je chercherais même à toucher le Seigneur. Mais qui c'est là qui fait des miracles? Ben oui, on est des êtres humains. Mais il ne faut pas oublier que si le Seigneur a accompli ce miracle, c'est pour une raison claire, précise, qui risque de passer inaperçue si nous lisons rapidement ce passage. Pourquoi le Seigneur a guéri la belle-mère? Il aurait pu lui la laisser dans la fièvre, tranquille, après. Pourquoi? En effet, quand ils arrivèrent à la maison, ils apprirent que la belle-mère de Simon était malade, couchée avec la fièvre. Elle voulait certainement prendre soin du Seigneur et de ses invités, mais la maladie ne lui permettait pas. Alors le Seigneur l'a guérie. Pourquoi faire alors? Eh bien, la réponse est dans un verbe. Pour servir. Le Seigneur a guéri la belle-mère, pourquoi faire? Pour qu'elle le serve. Oui, c'est pas la guérison pour le spectacle. Non, c'est pour qu'elle serve le Seigneur dans sa maison. Le premier service pour lequel chacun de nous est appelé est de servir chez soi. Dans son foyer, dans sa famille, dans sa maison. Et servir, ce n'est pas spécialement donner à manger. Hein. Vous voyez, tout de suite, on pense, ah, les repas. Pas du tout. Le service, ça peut être beaucoup de choses. Le service commence d'abord là, dans son foyer, avant de s'étendre à l'extérieur. Si jamais l'inverse. Hein. Je ne sers pas à l'extérieur après. Non. Je sers d'abord chez moi. Et après, ça peut s'étendre sur l'extérieur. Il est vraiment triste quand on entend dire que des hommes de Dieu, et encore une fois, vous en connaissez certainement, qu'ils font du burn-out. Il y en a même des hommes de Dieu qui prennent des antidépresseurs, peut-être. Ils servent tellement le Seigneur dans le monde qu'ils oublient de servir chez eux. Comment peut-on servir le Seigneur à l'extérieur et négliger sa famille? C'est vraiment triste et désolant. J'ai même... J'enlève cette phrase parce que je vais nommer. La souveraineté du Seigneur dans nos maisons est totale et doit être totale. Je ne peux pas servir le Seigneur à l'extérieur si je ne sers pas d'abord dans ma maison, dans mon foyer, avec ma femme et mes enfants. Si on vous dit le contraire, c'est un mensonge et je l'assume. La première église, c'est sa maison. Avant de s'intéresser à l'extérieur. Le Seigneur veille sur nous et au tout obstacle qui peut altérer notre service, mais toujours en harmonie avec notre contexte social, familial. Le service peut prendre différentes formes, pas spécialement un repas. Je ne parle pas de ça parce qu'on résume toujours. L'accueil est un service, oui. Un simple sourire est un service. Un mot de réconfort est un service. Apporter la paix est un service. Prendre sur soi est un service. S'humilier est un service. Éduquer ses enfants est un service. Passer du temps dans la prière est un service. Méditer la parole est un service. Et je continue. Ne résumons pas le service de dire j'accueille mon repas, ça y est, j'ai servi. Ça, c'est quand on est en train de justifier sa chair, de dire voilà, c'est bon, moi je sers. Non, service, ça va au-delà. C'est ça, mourir à soi-même. Servir le Seigneur dans son foyer permet de fructifier notre communion avec lui. Quand je sers, je suis en train de parler avec le Seigneur. C'est une dynamique de vie, une remise en mouvement permanente, comme le dit si bien le livre des Actes des Apôtres. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est une dynamique. Et même Ésaïe le disait bien aussi. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et le mot guéri vient du hébreu, comme je dis toujours, Rapha, qui veut dire remise en mouvement. Nous sommes dans une dynamique de vie. Le Seigneur est notre maître et notre modèle. Il suffit d'étudier ses faits et gestes pour découvrir notre véritable nature qu'il nous offre. Notre identité est cachée en Christ. Il n'a pas dit cachée avec Christ. Non, encore une fois, en Christ. Donc si je me cherche ma réalité, il est en Christ. Comment je la cherche? Mais je vais en contact avec lui. Comment? Par la prière et la méditation. Oui, les choses sont simples, mais on les complique parce qu'on justifie le comportement de la nature humaine. Juste une petite remarque qui n'a rien à voir. Souvent, nous étudions le parcours terrestre de notre Seigneur selon l'unique angle historique. Et on oublie que ce parcours est un enseignement et un exposé concret et vivant de ce que l'Église est appelée à vivre. Regardez la vie du Seigneur. C'est l'histoire de l'Église depuis sa naissance jusqu'à quand elle ira rejoindre son Seigneur, son époux. Le parcours terrestre du Seigneur renferme toute l'histoire de l'Église, de sa naissance à son enlèvement. Donc, toutes les paroles et tous les actes accomplis par le Seigneur renferment un enseignement spirituel pour l'Église d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et donc, nous devons, je reviens toujours à la même chose, nous devons chercher à saisir le message spirituel en communiquant, en communion avec le Seigneur. Avons-nous besoin d'un intermédiaire? Il n'y en a pas. Vous allez avoir la réponse? Cherchez le Seigneur, cherchons le Seigneur. Y compris les miracles et les guérisons qu'on trouve dans le Nouveau Testament et qui attirent tellement de personnes. Et souvent on parle des fois d'églises charismatiques, j'ai envie de les appeler charismaniaques des fois. Où on cherche les guérisons pour les guérisons, alors que nous croyons que Dieu guérit. Mais on oublie. Derrière chaque guérison, il y a un message spirituel. Quand il guérit le lépreux, c'est l'image du pardon des péchés. Quand il ressuscite les morts, c'est le message de la bonne nouvelle. Quand il guérit le paralytique, c'est cette remise en mouvement, comme dans Ésaïe. Hein? Rapha guérit. Et la meilleure réponse que le Seigneur a donnée, on la trouve dans un passage, je ne vais pas le lire entièrement. Mais seulement je vous dis l'histoire. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples. Les disciples sont venus voir Jean-Baptiste qui était en prison. Ils lui ont dit, mais on a vu Jésus qui guérit, etc. Est-ce que c'est lui qu'on attend ou pas? Jean-Baptiste les envoie vers Jésus. Il leur dit, mais posez-le la question. Est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on doit attendre le vrai Messie? Voilà ce que répond le Seigneur. Et là, il donne la réponse. Voilà ce qu'il a répondu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Il pourrait s'arrêter là. Les miracles. Il est en train de leur dire, mais vous savez, tous ces miracles visibles que vous voyez, que vous admirez, ce n'est que l'information visible du vrai miracle qui s'appelle la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà le sens même des guérisons et des miracles quand ils sont accomplis. Le Seigneur est le même partout, à l'église, dans la société, dans nos maisons. Le Seigneur s'est comporté comme il avait l'habitude de faire. Pour lui, il n'y avait pas de différence entre être au milieu d'une foule de plus de 1000 personnes et d'être dans un milieu familier. Comme c'est le cas dans la maison de Simon et d'André. De même, nous devons être les mêmes n'importe où. Rappelez-vous, je vous l'ai dit la dernière fois, j'étais étonné. Pas spécialement dans notre communauté. C'est quelqu'un qui me faisait la bise quand on est à l'église. Et je l'ai vu en grande surface, il m'a serré la main. Et il me faisait bien comprendre qu'il ne veut pas faire la bise. J'étais choqué. Et si le Seigneur est le même partout, pourquoi nous on doit différencier moi à l'église pas ailleurs? Nous devons être les mêmes n'importe où. On ne doit pas se comporter en chrétien seulement pendant les rassemblements à l'église. Et durant les retraites, les colloques, que sais-je. Nous devons l'être à l'église, dans son foyer, au travail, dans la société en général. Sinon, ça s'appelle l'apparence. Et vous savez ce qu'il a dit, l'apparence? Et quand le Nouveau Testament, enfin, dans le livre de l'Apocalypse, cette église, quand il y a comme apparence, il lui a dit, je te vomirai. C'est pas je te rejette, quand on rejette, c'est rien. Vomir, c'est encore pire. Bien que ce n'est pas le thème central de notre message, nous avons noté toutefois que Pierre, ayant une belle-mère, vous avez remarqué qu'il a une belle-mère, donc il avait forcément une épouse. D'accord? Et 1 Corinthiens 9, on lit que son épouse l'accompagnait durant ses voyages. Alors là, on a une réponse, là. Nous ne pouvons pas dire que le célibat du clergé trouve son origine dans l'exemple de l'apôtre Pierre. Vous suivez mon regard. Vous voyez, quand on néglige la parole de Dieu, on invente le célibat. Quand on dit que le premier pape, c'est Pierre, mais il était marié, il avait une femme, il avait des enfants. L'élément qui me paraît le plus important, ce n'est pas la personne délivrée des esprits impurs dans la synagogue. Ce n'est pas non plus la guérison de la belle-mère de Simon, pas du tout. L'information la plus importante et pourtant pas souvent inaperçue se trouve dans le verbe servir. Et c'est pour ça qu'il l'a guéri. Nous, on dit, oh, la guérison, on voudrait bien voir ça. Le Seigneur l'attend servir. La belle-mère de Simon, quand il se mit à servir le Seigneur, Jésus, cette femme n'employait plus sa propre énergie parce qu'elle n'en avait pas. Mais elle utilisait l'énergie que le Seigneur lui a donnée. Quand la fièvre quitte une personne, cette dernière demeure encore un temps faible. On a tous eu de la fièvre. Donc même quand on s'enlève, on est encore faible. Cependant, la belle-mère de Simon avait eu les forces pour servir sans aucune convalescence. Pourquoi? Parce qu'on agit par la force du Seigneur. Cette femme s'est mise à servir le Seigneur par la force et l'énergie du Seigneur que le Seigneur lui a donné, pas par ses propres moyens. Cette énergie, cette force sont le fruit de quoi? De sa faiblesse. Voilà l'avantage de la faiblesse. Dans sa faiblesse, le Seigneur lui a donné la force. Et quand elle commence à servir, ce n'est plus elle qui sert, c'est Christ à travers elle. Oui, dans la faiblesse, le Seigneur a donné et exprimé sa force. Dans la faiblesse de cette femme, mais avec un cœur désireux de servir, le Seigneur lui a donné l'énergie céleste. Quel extraordinaire message. Paul est le grand exemple pour l'Église. Il avait une écharde, on ne sait pas si c'était une maladie ou que sais-je. Moi, je pense aussi que ça peut être aussi une souffrance psychologique par rapport à ce qu'il a fait avant. Parce qu'il a persécuté, ça se peut qu'il a même exécuté et tué des chrétiens. Mais comme le Seigneur s'est révélé à lui, c'est tellement ce remords, ça peut être aussi une souffrance psychologique. Et lui-même, il écrit, il m'a dit, ma grâce te supplie car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans tout type de souffrance. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette dernière phrase est extraordinaire. C'est tout le contraire de notre logique humaine. C'est une chose que nous ne devons jamais oublier. Le Seigneur nous a non seulement libérés de beaucoup de choses, et souvent on dit, il m'a libéré de beaucoup de choses. Ah, je jouais au loto, donc je pariais, je faisais la fête, tout ça. Il nous a libérés de ces choses-là, mais aussi de nos propres forces, et c'est ça le plus dur. La chair ne veut pas lâcher ça. Il nous a libérés de notre propre énergie. Il veut qu'on le serve par sa force et par son énergie. Cette véritable énergie s'obtient souvent, si ce n'est toujours, dans l'expérimentation de nos faiblesses. Posez la question aux gens qui vivent dans la faiblesse. Et ils transpirent la communion avec le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Dans la faiblesse, le Seigneur se révèle. Nous réalisons alors que nous sommes sauvés pour servir. Voilà le titre de mon intervention. Sauvés pour servir. Et si quelqu'un se dit chrétien et il ne sert pas, nous devons douter s'il a réellement senti la main du Maître qui sauve. Quelques passages. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles. Pourquoi faire? Pour servir. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Un autre passage. Après que serions-nous délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Un autre passage. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, le Seigneur. Il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En résumé, nous avons besoin, nous avons le désir de servir le Seigneur. La première chose, c'est être clair que ce n'est pas parce que j'ai le titre chrétien, ça y est, c'est fini. C'est dans ma faiblesse, dans mon humilité et dans ma communion avec le Seigneur, dans la prière, à la méditation, que je peux maintenir ce contact, cette connexion. Nous avons le devoir de nous alerter les uns les autres. Le Seigneur n'est pas seulement à l'église, mais 24 heures sur 24. Quand on sort d'ici, on est chrétien. Quand on rentre dans son foyer, on est chrétien. Quand on travaille, on est chrétien. Là où nous sommes, il est là le Seigneur. Et c'est seulement quand on a un cœur qui s'ouvre à lui. On comprend que dans la faiblesse, dans l'humilité, c'est lui qui nous donne la force. Alors, on commence le service. Et comme par hasard, par la suite, on voit les miracles s'accomplir. L'Église devient une bénédiction pour l'endroit où elle est. Parce qu'il est dit, à la fin de la journée, le soir, là, l'Église devient une bénédiction pour l'environnement où elle est. Elle devient un témoignage. Elle n'a même pas besoin d'aller vers les autres. C'est les autres qui viennent vers elle parce qu'ils voient en elle un témoignage vivant. Elle devient le sel de la terre. Elle devient la lumière du monde. Et là, le Seigneur commence à œuvrer à travers l'Église, comme nous le lisons là. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissent. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'aller vers le monde. Commençons d'abord par laisser le Seigneur agir en nous, nous transformer. Il fera tout le reste parce que nous deviendrons une bénédiction. Et je termine par le titre de l'intervention. Nous sommes sauvés pour servir. Que Dieu nous aide. Amen.